Alexandre Dumas, Black, chapitre 7. Où il arrive un événement qui dispense le chevalier de la Graverie d'être d'escorte pendant 3 mois. Le mois de février s'écoula comme s'était écoulé le mois de janvier. Le tour d'escorte du chevalier revint. Ce furent les mêmes angoisses, mais cette fois encore mieux justifiées. Mal tenu en bride, le cheval du mousquetaire s'abattit. Monsieur de la Graverie sauta par-dessus sa tête, roula sur le pavé et se foula l'épaule. On le reporta chez lui, presque content d'en être quitte pour si peu. L'accident du chevalier se répandit. Tout ce qu'il y avait de bien placé à la cour déposa chez lui sa carte ou vint en personne. Le roi fit demander 3 fois de ses nouvelles. Le baron était au comble de la joie. « Sache exploiter la circonstance, lui disait-il, et ta fortune est faite. » Le chevalier ne demandait pas mieux que d'exploiter la circonstance, pourvu que ce ne fût point à cheval. Aussi, quoiqu'en particulier il eût tiré son bras de son écharpe, quoique, quand il était seul, il montrât devant une glace le poing à un être inconnu qui pouvait bien être le baron, quoique, quand il s'agissait de serrer sa femme contre son cœur, il trouva dans son bras foulé la même force que dans l'autre, en face des visiteurs qui venaient s'informer de sa santé, en face des officiers de la maison du roi qui venaient lui rendre visite, il feignait une douleur obstinée et faisait des grimaces diaboliques à chaque mouvement imprimé à son bras, volontairement ou involontairement. Il espérait escamoter ainsi au moins un tour d'escorte. En conséquence, non seulement il ne sortait point, mais encore il ne quittait pas la chambre, ne se levait de son lit que pour s'étendre dans une grande bergère, et retrouvait cette félicité des tête-à-tête qu'il croyait à tout jamais perdue. En effet, tandis que le chevalier lisait les journaux, et particulièrement le Moniteur, qui était sa lecture favorite, et dans la placidité duquel il trouvait quelque harmonie avec son caractère, Mathilde, assise auprès de lui, travaillait à un ouvrage d'aiguille quelconque, bâillant à se démonter la mâchoire. Mais chaque fois qu'elle bâillait, dissimulait à son mari cette disgracieuse action, en levant sa tapisserie à la hauteur de son visage et en bâillant derrière la toile. Le 7 mars au matin, Mathilde travaillant à sa tapisserie, le chevalier étendu dans son fauteuil et lisant le Moniteur, il tomba sur la proclamation suivante. Proclamation. Nous avions le 31 décembre dernier ajourné les chambres pour reprendre leur séance au 1er mai. Pendant ce temps, nous nous livrions sans relâche à tous les travaux qui pouvaient assurer la tranquillité publique et le bonheur de nos peuples. « Ceci est bien vrai, murmura le chevalier, et pour mon compte, je n'ai à reprocher qu'une chose au roi, ce sont ses sorties journalières et sa manie d'être accompagné d'une escorte. » Puis il reprit. « Cette tranquillité est troublée, ce bonheur peut être compromis par la malveillance et la trahison. »« Oh, oh !» fit le chevalier, « entends-tu, Mathilde ?» « Oui, répéta Mathilde en étouffant un bâillement. « J'entends par la malveillance et la trahison, seulement je ne comprends pas. »« Ni moi non plus, répondit le chevalier, mais nous allons bien voir. » Et il continua. « Si les ennemis de la patrie ont fondé leur espoir sur les divisions qu'ils ont toujours cherché à fomenter, ses soutiens, ses défenseurs légaux, renverseront ce criminel espoir par l'inattaquable force d'une union indescriptible. « Certainement, dit le chevalier, on renversera ce criminel espoir et moi tout le premier, si mon bras va mieux. » Puis, se retournant vers Mathilde, « Comme il écrit bien le gouvernement, n'est-ce pas, chérie ?»« Oui, dit Mathilde sans desserrer les dents, de peur, si elle desserrait les dents, de n'être plus maîtresse de sa mâchoire. Il est intéressant aujourd'hui, le moniteur, fit le chevalier. Et il continua. À ces causes, oui, le rapport de notre ami Éphéal, chancelier de France, le sieur d'Ambray, commandeur de nos ordres, nous avons ordonné, et ordonnons ce qui suit. Ah, fit le chevalier, voyons ce qu'ordonne le roi. Article 1. La chambre des pairs et celle des députés des départements sont convoquées au lieu ordinaire de leur séance. Article 2. Les pairs et les députés absents de Paris s'y rendront aussitôt qu'ils auront connaissance de la présente proclamation. Donné au château des Tuileries, le 6 mars 1815, le 20e de notre règne. Signé Louis. C'est drôle, dit le chevalier. Le roi convoque les chambres et il ne dit pas pourquoi il les convoque. Tu m'as toujours promis de me conduire à une séance pour me distraire, Dieudonné, dit Mathilde.
Je t'y conduirai, dit le chevalier.
Ah, ce sera bien amusant, dit Mathilde, bâillant à se fendre la bouche, dans l'espoir du plaisir qu'elle y prendrait. Ah, mais attends donc, s'écria le chevalier, ordonnance. Il y a une ordonnance. Cette ordonnance va tout nous dire, peut-être. Et il lut. Ordonnance. Sur le rapport de notre ami Éphéal, chevalier chancelier de France, le sieur d'Ambray, commandeur de nos ordres, nous avons ordonné et ordonnons, déclaré et déclarons ce qui suit. Article 1er. Napoléon Bonaparte est déclaré traître et rebelle pour s'être introduit à main armée dans le département du Var.
Ta ta ta, fit le chevalier. Que dit donc là le moniteur? As-tu entendu, Mathilde?
Traître et rebelle pour s'être introduit à main armée dans le département du Var. Mais qui cela est traître et rebelle?
Et Napoléon Bonaparte, sac à papier, est-ce qu'il ne l'avait pas enfermé dans une île?
Si fait, reprit Mathilde, dans l'île d'Elbe même.
Eh bien alors, il n'a pas pu s'introduire dans le département du Var, à moins qu'il n'y ait un pont conduisant de l'île d'Elbe au susdit département. Continuons, continuons.
Il est en conséquence enjoint à tous les gouverneurs commandants de la force armée, garde nationale, autorité civile, et même aux simples citoyens, de lui courir sus.
J'espère bien que tu vas te tenir tranquille, dit Mathilde, et ne pas t'amuser à lui courir sus.
Ce n'est pas tout, attends donc.
Attends donc.
Et le chevalier reprit. De lui courir sus, de l'arrêter et de le traduire incontinent devant un conseil de guerre, qui, après avoir reconnu l'identité, prononcera contre lui l'application des peines portées par la loi.
En ce moment, le chevalier fut interrompu dans sa lecture par le bruit que fit la porte de sa chambre à coucher en s'ouvrant, et par la voix de son domestique, annonçant son frère, le baron de la Graverie. Le baron était équipé et armé en guerre, comme monsieur de Marlborough. Le chevalier pâlit en le voyant apparaître avec cet air formidable.
« Eh bien, dit le baron, tu sais ce qui se passe ?»«
J'en ai quelque idée. L'ogre de Corse a quitté son île et débarqué au golfe Juan. »«
Au golfe Juan ? Qu'est-ce que c'est que cela ?»«
C'est un petit port situé à 2 lieues d'Antibes. »«
D'Antibes ?
Oui, et je viens te chercher. »
« Me chercher, moi? Et pourquoi faire ?»«
Mais n'as-tu pas vu qu'il est enjoint à tous, commandant de la force armée, à tout garde national, à toute autorité civile, et même aux simples citoyens de lui courir sus ?»«
Eh bien, je viens te chercher pour lui courir sus. »
Le chevalier regarda Mathilde d'un air suppliant. Il reconnaissait humblement, dans toutes les grandes circonstances, qu'elle avait plus d'imaginative que lui, et il comptait sur elle pour le tirer de là. Mathilde comprit ce regard de détresse.
« Mais, dit-elle, s'adressant au baron, il me semble, beau frère, que vous oubliez une chose.
Laquelle ? c'est que si vous êtes libre de prendre votre grand sabre et de courir sus à qui vous voulez, Dieudonné ne l'est pas.
Comment il ne l'est pas?
Non, Dieudonné appartient à la maison du roi. Il fera ce que fera la maison du roi. Quitter Paris à 7 heures, fût-ce pour courir sus à Napoléon, serait déserté.
Le baron se mordit les lèvres.
Ah, dit-il, il paraît que vous êtes le major général de Dieudonné.
Non, répondit simplement Mathilde, le major général de Dieudonné est, je crois, le duc de Raguse.
Et elle se remit tranquillement à sa tapisserie, tandis que le chevalier la regardait avec admiration.
« Eh bien, soit, dit le baron, j'irai sans lui. »«
Et l'honneur vous en reviendra à vous tout seul, dit Mathilde. » Le baron jeta un regard de haine à la jeune femme et sortit.
« Que dis-tu de la visite de mon frère ?» demanda Dieudonné, tout tremblant encore.
« Mais je dis qu'après avoir soutiré de toi la moitié de ta fortune, il ne serait peut-être pas fâché de te faire tuer pour hériter du reste. »
Dieudonné fit une grimace qui signifiait « Tu pourrais bien avoir raison. » Puis il alla à Mathilde et l'embrassa, la serrant contre son cœur à l'étouffer, oubliant qu'il la serrait ainsi avec le bras dont il ne pouvait pas se servir. Pendant toute la journée, la maison du chevalier ne désemplit pas. Chaque visiteur parla de l'étrange événement. Personne ne doutait que Napoléon ne fût pris et fusillé au bout de 10 lieues. Mais à cette question adressée 20 fois dans le cours de la journée au chevalier, « Et vous, qu'allez-vous faire ?» Le chevalier répondit invariablement, « Je suis de la maison du roi. Ce que fera la maison du roi, je le ferai. » Réponse que chacun trouva d'une convenance parfaite. Tous les visiteurs, au reste, avaient rencontré le baron avec son grand sabre, et chacun savait qu'il s'apprêtait à courir sus à l'ogre de Corse. Le même jour, vers 2 heures, on apprit que monsieur le comte d'Artois allait partir pour Lyon, et monsieur le duc de Bourbon pour la Vendée. En réponse à cette double nouvelle, Dieudonné annonça, en faisant d'effroyables grimaces, que son bras lui causait des douleurs épouvantables. Le 8 et le 9, les nouvelles furent vagues. On rencontrait partout le baron, qui n'attendait pour partir et pour courir sus à Napoléon que de savoir précisément où il était. À part les douleurs que lui faisait éprouver son bras, Dieudonné jouissait d'un grand calme. D'où lui venait cette philosophie? Était-il de l'école stoïque? Non. Mais une idée lui était venue qui se cramponnait au fond de son esprit avec l'obstination de l'égoïsme. À peine si nous osons dévoiler quelle était cette idée. La Rochefoucauld dit qu'il y a toujours, dans le malheur même de notre plus grand ami, quelque chose qui ne nous déplaît pas. On pourrait ajouter que, dans les plus grands bouleversements politiques, au milieu des catastrophes qui renversent les trônes, les sceptres, les couronnes, il y a toujours un tout petit point qui fait que l'homme n'en veut pas trop à la cause renversante. Dieudonné avait songé que, si Napoléon remontait sur le trône, Louis XVIII quitterait Paris. Que Louis XVIII quittant Paris ne se promènerait plus de 3 à 6 heures. Louis XVIII ne se promenant plus, le service de l'escorte était supprimé. Donc, plus d'angoisse pendant tout un jour, plus de transe pendant les 30 autres. À quoi tiennent les opinions, grand Dieu? Le chevalier avait d'abord écarté cette idée comme indigne de lui. Mais peu à peu, elle était revenue à la charge, et ayant pénétré dans son cerveau, elle n'en voulait plus sortir. Il en résulta que, le 9, quand Dieudonné lut dans le Moniteur que Napoléon entrerait probablement le 10 dans la soirée à Lyon, il ne fut pas si fortement impressionné de cette nouvelle qu'on aurait pu le croire. Le baron avait annoncé que, sachant désormais où trouver Napoléon, il partirait sans faute le 11 ou le 12, c'est-à-dire dès que la nouvelle de son entrée dans la seconde capitale du royaume serait confirmée.
Le 15, dans la journée, le bruit se répandit que le duc de Raguse venait d'obtenir du roi que l'on fortifia les Tuileries et qu'il s'y enferma avec les ministres, avec les chambres, avec toute sa maison militaire. Les Tuileries pouvaient renfermer 3000 hommes. Ce fut le baron qui vint annoncer cette nouvelle à son frère en lui disant qu'il espérait bien le voir faire partie de la garnison. « Je te croyais parti depuis le 11, » lui répondit Dieudonné. « J'allais partir, en effet, » dit le baron, « quand j'ai réfléchi que l'on vient de Lyon à Paris par deux routes, la route de Bourgogne et la route du Nivernais. J'ai craint de prendre une route tandis qu'il prendrait l'autre. » « C'est une raison, » dit Mathilde. « Oui, et je n'en vois pas, » répondit le baron, « à ce que mon frère ne se mette pas à la disposition du roi. » « C'est aussi ce qu'il va faire, » dit Mathilde. Et elle prit une plume, de l'encre et du papier. « Que faites-vous ? » demanda le baron. « Vous le voyez, j'écris. »«
À qui ? » ?»«
Au duc de Raguse. »«
Quoi ? » ?»«
Que mon mari se mette à sa disposition. » »«
Dieudonné ne sait donc plus écrire ?»«
Non, quand il a le bras droit foulé. » Et Mathilde écrivit. « Monsieur le maréchal, mon mari, le chevalier Dieudonné de la Graverie, quoique assez grièvement blessé au bras pour que ce soit moi qui vous écrive, a l'honneur de vous rappeler qu'il fait partie de la maison rouge du roi. Quelque chose que vous décidiez, il demande à partager les périls de ses compagnons. Son dévouement pour sa majesté lui tiendra lieu de force. Il a l'honneur d'être, monsieur le maréchal, etc., etc. »
« Est-ce bien ainsi ? » demanda Mathilde au baron.
« Oui, répondit le baron furieux, c'est à merveille, et Dieudonné est bien heureux d'avoir une femme comme vous. »«
Hein ? » fit naïvement Dieudonné, « quand je vous disais que c'était un trésor. »
Le baron se retira en disant qu'il allait aux nouvelles. Mathilde envoya sa lettre aux Tuileries. Le 19, à 9 heures du matin, on apprit à Paris que Napoléon était entré le 17 à Auxerre et qu'il continuait sa marche sur la capitale. À 11 heures, le roi, qui avait repoussé le plan du duc de Raguse, fit venir le maréchal et lui dit « Je pars à midi. Donnez des ordres en conséquence à ma maison militaire. » Le duc de Raguse donna ses ordres. À midi, on annonça chez monsieur de la Graverie un aide de camp du maréchal. Le maréchal répondait directement à madame de la Graverie que le roi, sachant l'accident grave qui faisait garder la chambre à monsieur de la Graverie, et connaissant ses sentiments de dévouement à l'endroit de la monarchie, lui donnait congé de rester chez lui, sachant parfaitement que s'il ne le voyait pas en ce moment suprême, cela tenait à la blessure qu'il s'était faite à son service.
C'est bien, monsieur, répondit Mathilde à l'aide de camp. Dites à monsieur le maréchal que dans une heure, monsieur de la Graverie sera au château.
Dieudonné ouvrait des yeux énormes. L'aide de camp, émerveillé devant cette héroïne, salua avec admiration et se retira. Mathilde passa la lettre à Dieudonné.
Mais, dit-il, le roi me donnait congé, il me semble.
« Oui, dit Mathilde, mais ce sont de ces sortes de faveurs qu'un gentilhomme ne doit pas accepter. Il faut accompagner le roi dans sa retraite jusqu'au moment où la terre de France manquera devant lui. Dussiez-vous vous faire attacher à votre cheval ?»
Monsieur de la Graverie était un homme d'un sens droit.
« Vous avez raison, Mathilde, dit-il. » Puis, de la même voix que César eut fait le même commandement, « Mon harnais et mon cheval de guerre, » dit-il. Une heure après, monsieur le chevalier de la Graverie
était aux Tuileries. À minuit, le roi partit. En arrivant à Ypres, le roi le vit et le reconnut. Il était resté, lui, troisième. Le roi se fit apporter trois croix de Saint-Louis et les attacha lui-même à l'uniforme de ses trois fidèles. Puis il les renvoya en France en leur annonçant qu'il espérait les y revoir bientôt. Le chevalier avait fait près de 100 lieues à cheval, il en avait assez. Il vendit son cheval moitié de sa valeur, prit la diligence et revint à Paris. Il est impossible de donner au lecteur une idée de la majesté du geste avec lequel il montra sa croix de Saint-Louis à Mathilde. Mathilde était rayonnante. Dieudonné demanda des nouvelles de son frère. Il était enfin parti le 17. Seulement, il était parti pour la Belgique, ne voulant pas rester à Paris, compromis comme il l'était par les dispositions belliqueuses qu'il avait imprudemment manifestées.